Histoire de France, Jacques Bainville, chapitre 20. La Deuxième République et le Second Empire. Aux journées de février 1848, comme aux journées de juillet 1830, la monarchie avait cédé presque sans résistance à l'émeute de Paris. Dans les deux cas, ce n'était pas seulement le roi qui avait abdiqué, c'était l'autorité elle-même. Mais si, en 1830, la bourgeoisie libérale avait pu substituer Louis-Philippe à Charles X, en 1848, elle avait été prise au dépourvu, et cette fois, l'émeute ne lui avait pas permis d'escamoter la Révolution. Bon gré mal gré, il fallait accepter la République, dont le nom évoquait pour les hommes d'ordre d'assez mauvais souvenirs. Il y eut donc une panique à côté d'un enthousiasme extraordinaire. On bénissait partout des arbres de la liberté, mais les cours de la bourse tombaient à rien, et, dans la crainte du pire, chacun réalisait ce qu'il pouvait. Ce qui inspirait surtout l'effroi, c'était le socialisme, qui s'était développé durant la monarchie de Juillet, avec l'industrie et l'accroissement de la population ouvrière. La République, que les insurgés avaient proclamée, c'était la République démocratique et sociale, fortement teintée de rouge. Au gouvernement provisoire entrèrent, avec des modérés comme Lamartine, des républicains avancés comme Ledru-Rollin, un théoricien socialiste, Louis Blanc, et un ouvrier, Albert. D'après la conviction presque générale, ce n'était qu'un commencement, et l'on allait vers une transformation radicale de la société. La réforme électorale avait été la cause de l'insurrection. Le suffrage universel était inévitable, et l'on avait peine à imaginer que le suffrage universel ne fût pas révolutionnaire. L'histoire très brève de la Deuxième République est celle d'un enthousiasme rapidement déçu et d'une peur prolongée. C'est celle aussi d'un phénomène bien plus important, l'autorité, sous la forme de deux monarchies qui avaient successivement abdiqué, avaient douté du pays, et c'est pourquoi, au premier accident, elle avait douté d'elle-même et défailli. Nous allons voir le pays se mettre à la recherche de l'autorité et en très peu de temps la rétablir. Ceux qui, par crainte du désordre, se méfiaient du peuple français, s'étaient trompés autant que ceux qui, pour gagner ses suffrages, croyaient qu'une attitude démagogique était le moyen le plus sûr. Paris même, foyer des révolutions, n'allait pas tarder à se montrer hostile à la révolution sociale et avec une rare violence. Les premières semaines furent tumultueuses. Le gouvernement provisoire devait sans cesse parlementer avec les insurgés, qui étaient restés sous les armes et qui réclamaient des satisfactions immédiates. Il fallut leur promettre le droit au travail, au nom duquel furent créés les ateliers nationaux pour occuper les chômeurs. Lamartine parvint, non sans peine, à maintenir le drapeau tricolore et à écarter le drapeau rouge. Pourtant, les exigences des ouvriers étaient moins graves que leurs illusions. Comme les modérés leur avaient dit que le progrès ne pouvait se réaliser en un jour, ils avaient montré leur bonne volonté en mettant 3 mois de misère au service de la République. 3 mois pour réformer la société. Le suffrage universel proclamé, l'accès de la garde nationale, jusque-là réservée aux classes moyennes, ouvert à tous, la diminution de la journée de travail, la création d'une commission des réformes sociales, c'était, avec les ateliers nationaux, à peu près tout ce qui était possible. Mais il y avait des revendications d'un autre ordre qui étaient bien plus dangereuses, celles que l'idéalisme révolutionnaire inspirait. La revanche des traités de 1815, les frontières naturelles, la haine de la Sainte Alliance, avaient pris un caractère mystique. Les insurgés de 1830 pensaient encore aux conquêtes, à la Belgique et à la rive gauche du Rhin. Ceux de 1848 avaient la religion des peuples opprimés, de la Pologne surtout, dont le nom revenait sans cesse dans les discours. Sur divers points de l'Europe, des mouvements révolutionnaires avaient précédé les journées de février. D'autres, à Berlin, à Vienne, les suivirent. On crut qu'une ère nouvelle de justice et de liberté allait s'ouvrir pour le monde. Paris était plein de réfugiés, de tous les pays, qui allaient, en cortège, acclamés par la foule, demander le secours du gouvernement provisoire. Lamartine devait répondre chaque jour à des délégations allemandes, hongroises, italiennes, polonaises, irlandaises, norvégiennes même. Une pression s'exerçait sur la République pour l'entraîner à la guerre de propagande en faveur de laquelle insistaient, avec Ledru-Rollin, les républicains de doctrine. Lamartine, qui avait pris le ministère des Affaires étrangères, abondait en nobles paroles, mais temporisait de son mieux. Éclairé par ses responsabilités et craignant de jeter la France dans des aventures et de renouer contre elle une coalition, il eût peut-être fini par intervenir en faveur de l'Italie soulevée contre l'Autriche si les Italiens, en souvenir de l'occupation française au temps de la Révolution et de l'Empire, n'avaient redouté les républicains français autant que les Habsbourg et répondu que l'Italie y ferait d'elle-même. L'esprit de ces révolutions européennes était avant tout national. Elles annonçaient la formation de ces grandes unités, l'unité italienne, l'unité allemande, qui ne s'accompliraient qu'en brisant les cadres de l'Europe et en provoquant de grandes guerres. ces conséquences que Louis-Philippe et Guizot avaient entrevues lorsqu'ils s'étaient associés à Metternich pour une politique de conservation échappaient aux républicains français. C'est l'honneur de Lamartine d'avoir résisté à leur sommation. Mais à ses débuts de la Deuxième République, un souci commençait à dominer les autres. Il ne suffisait pas d'avoir proclamé le droit de tous au suffrage. Il fallait consulter le suffrage universel. Et, à mesure que l'heure approchait, c'était chez les révolutionnaires que les appréhensions étaient les plus vives. On commençait à se demander si toute la France était à l'image de Paris, si elle n'allait pas élire une majorité modérée, peut-être réactionnaire, paralyser la République, sinon la détruire. Alors, ce furent les plus avancés qui réclamèrent l'ajournement des élections et la dictature du progrès, intimés par la manifestation du 17 mars, le gouvernement provisoire recula jusqu'au 23 avril, la date du scrutin. Ce répit, les partisans de la République sociale le mirent à profit pour organiser une journée sur le modèle de la Révolution, afin d'épurer le gouvernement provisoire et d'en chasser Lamartine et les modérés. Comme sous la Révolution aussi, lorsque les Jacobins avaient été battus, c'est par les légions de la garde nationale, restées fidèles à l'ordre, que le coup de force échoua. Les communistes, c'est ainsi qu'on commençait à les appeler, ne réussirent pas à s'emparer de l'hôtel de ville, et leur manifestation ne rencontra à Paris que froideur et hostilité. Hostile, la province l'était encore plus. À 8 jours des élections, cette menace d'émeute l'inquiéta et l'irrita. Par habitude, elle avait suivi la capitale, excepté le changement de régime, et il n'y avait, pour ainsi dire, pas de candidat qui ne se dit républicain. Mais un symptôme remarquable, c'était le calme que la province avait gardé, l'absence presque complète de désordre. Le suffrage universel, ce sphinx, ce monstre, allait parler pour la première fois. On vota avec un zèle qui ne s'est jamais revu depuis. 7 800 000 bulletins sur 9 400 000 inscrits, 80% des Français. Et la réponse fut décisive. Sur 800 députés, les républicains avancés étaient moins de 100. Le reste était composé de modérés surtout, et de monarchistes plus ou moins avoués. Pour la République démocratique et sociale, c'était un écrasement. Un résultat plus curieux encore, c'est que, même à gauche, presque tous les élus étaient des bourgeois. Les conservateurs, qui craignaient le suffrage universel, s'attendaient à voir un grand nombre d'hommes en blouse. Il n'y eut pas plus d'une vingtaine d'ouvriers. Les classes moyennes gardaient la direction du pays, et jusqu'à nos jours, dans toutes les assemblées, ce trait se retrouvera. L'Assemblée de 1848 représentait une aspiration générale à l'ordre. Spontanément, le peuple français venait de suivre l'exemple des bourgeois de 1830 qui avaient substitué Louis-Philippe à Charles X. Née de l'émeute, comme la monarchie de juillet, la Deuxième République se mettait tout de suite de l'autre côté de la barricade. Comme la monarchie de juillet, elle allait aussi se retrouver aux prises avec les révolutionnaires déçus et, par une réaction rapide, marcher vers le rétablissement de l'autorité. L'Assemblée se nomma elle-même constituante. Mais à la différence de celle de 1789, ce n'était pas en amie qu'elle traitait la gauche. En attendant qu'une constitution fût votée, elle remplaça le gouvernement provisoire par une commission exécutive de 5 membres, une sorte de directoire d'où les socialistes furent exclus. Lamartine et Ledru Rollin y entrèrent seuls, et avec un chiffre de voix inférieur à celui qu'obtenaient leurs 3 collègues nouveaux, des modérés. Aux socialistes, écartés du pouvoir, il ne restait qu'à se soumettre ou à recommencer l'émeute. Cette assemblée s'opposait aussi bien aux réformes radicales à l'intérieur qu'à la guerre pour la délivrance des nationalités à l'extérieur. Excités par les clubs, les démocrates parisiens essayèrent de la renverser par un coup de force. Le 15 mai, l'Assemblée fut envahie au cri de « Vive la Pologne !». Les insurgés s'emparèrent de l'hôtel de ville. On crut un moment que la Révolution avait triomphé. Cette fois encore, la garde nationale, restée en majorité bourgeoise, rétablit l'ordre rapidement. Cette alerte effrayait l'Assemblée et le pays, accrut leur haine du socialisme, auquel la guerre fut déclarée. La droite et les modérés se rapprochèrent. 15 jours plus tard, la majorité décida de fermer les ateliers nationaux, devenus une source de gaspillage et un foyer d'agitation. On sentait pourtant que le lendemain n'était pas sûr, qu'un conflit grave allait se produire et un gouvernement fort commençait à être désiré. Ces circonstances servaient à merveille la cause de Louis-Napoléon Bonaparte. Pourtant, il n'y avait plus de parti bonapartiste organisé. Personnellement, l'aventurier de Strasbourg et de Boulogne était sans crédit. Il avait pour lui son nom, les souvenirs napoléoniens, où se mêlaient l'ordre, l'autorité, la gloire. Peut-être avait-il surtout la faiblesse du pouvoir qui inquiétait le pays. Encore exilé, Louis-Napoléon fut élu député à une élection partielle. Expérience concluante. Son nom suffisait. C'était une caution et une garantie. Louis Napoléon jugea plus habile de ne pas rentrer tout de suite en France, bien que l'Assemblée lui en eût ouvert les portes. Elle ne croyait pas avoir le droit de s'opposer à une volonté exprimée par le suffrage universel, trop nouveau pour qu'on n'en eût pas le respect. Cette élection survint au moment où les esprits étaient les plus agités. La fermeture des ateliers nationaux était imminente. Chaque soir, des bandes d'ouvriers parcouraient les boulevards en acclamant la République démocratique et sociale. Les contre-manifestations étaient spontanées et il ne leur manquait qu'un cri et des chants. On peut dire que l'Empire commença par une scie de café-concert. Poléon, nous l'aurons. Et par des romancées sentimentales. Napoléon, sois bon républicain. Un parti bonapartiste commençait à se former et ce qui était encore plus important, un état d'esprit bonapartiste se formait aussi. Une nouvelle émeute socialiste allait le renforcer. Celle-là fut plus qu'une émeute, un véritable essai de guerre sociale, noyé dans le sang. La commission exécutive, obéissant au vote de l'Assemblée, avait fixé au 21 juin la dissolution des ateliers nationaux. Le 22, la décision ayant été notifiée, une délégation ouvrière protesta auprès du gouvernement. La décision maintenue, l'insurrection éclata le lendemain. Elle fut d'autant plus violente qu'elle était anonyme. Elle n'eut pas de chef. Le seul nom qui en soit resté est celui de Pujol, chef de section aux ateliers nationaux, qui donna le signal du soulèvement par une harangue aux ouvriers sur la place de la Bastille, au pied de la colonne de Juillet. La sédition, comme l'Assemblée l'appelait, s'autorisait contre la République bourgeoise du souvenir des révolutions qui avaient renversé la monarchie. Le soir même, la population ouvrière de Paris était sous les armes. On vit alors ce que, ni en 1789, ni en 1830, ni en février, on avait vu. Un gouvernement résolu à se défendre, qui avait pris toutes ses précautions, arrêté même à l'avance un plan de combat et qui chargeait l'armée régulière de la répression. En écartant les 5 civils de la commission exécutive, l'Assemblée délégua le pouvoir au général Cavaignac, c'est-à-dire à un dictateur républicain. En 3 jours, l'insurrection, d'abord maîtresse de près de la moitié de Paris, fut écrasée. Des arrestations en masse, des condamnations par les conseils de guerre, des déportations en Algérie suivirent cette victoire de l'ordre. La troupe s'était battue avec discipline. Les sections bourgeoises de la garde nationale avec fureur. De province même, des renforts leur étaient venus. Au lieu d'être honorés, l'insurrection fut flétrie. Les insurgés ne furent plus des héros, mais des barbares. L'assassinat du général Bréat, la mort de l'archevêque de Paris, Monseigneur Affre, tué au moment où il intervenait entre les combattants, se racontèrent avec horreur. Partout, l'impression fut profonde. Du moment que la révolution attaquait l'ordre social et la propriété, Paris même cessait d'être révolutionnaire. Des journées de juin, le socialisme sortit affaibli et découragé, tandis que la réaction grandissait, des villes aux campagnes, avec la haine des partageux. Dès lors, les événements marchèrent très vite. La Constitution, qui fut adoptée par l'Assemblée, disait que la République aurait un président et que ce président serait élu par le peuple. Rares furent les républicains comme Grévy qui représentèrent que le plébiscite pouvait être mortel pour la République. La gauche même l'accepta. La doctrine républicaine enseignait alors que le régime parlementaire était d'essence conservatrice et monarchique, que le pouvoir exécutif, pour ne pas dépendre d'une assemblée toujours capable de restaurer la monarchie, devait s'appuyer sur le suffrage universel, ce qui prouve que les théories politiques sont changeantes, comme les circonstances qui les déterminent. Le plébiscite eut lieu le 10 décembre. Avec Lamartine et le général Cavaignac, Louis-Napoléon avait posé sa candidature. Il était rentré en France depuis peu de temps. Sa présence à l'Assemblée avait été peu remarquée, mais son attitude avait été habile. Il avait nié qu'il fût prétendant au trône impérial. Au lieu de parler, comme dans ses premiers manifestes, comme presque tout le monde quelques mois plus tôt, de réformes sociales, il était devenu conservateur, avec un vocabulaire démocratique, le mélange même dont les idées et les traditions napoléoniennes se composaient. À la surprise générale, il fut élu à une majorité considérable, avec 5,5 millions de voix. Plus significatif, plus glorieux que ceux de Cavaignac et de Lamartine, le nom de Napoléon l'avait emporté. Ce fut une situation bien extraordinaire que celle de ce prince président qui n'était rien la veille, qui n'avait qu'une poignée de partisans et qui devenait chef de l'État. Le premier mouvement des députés fut de considérer son élection comme un accident. Le président n'était pas rééligible, et de le traiter lui-même comme une quantité négligeable. En effet, n'étant pas initié aux affaires, il montrait de l'embarras et même de la timidité. Pourtant, il avait déjà une politique. Il choisit ses ministres parmi les conservateurs, et, mesurant l'importance de l'opinion catholique, lui donna une satisfaction en décidant l'expédition de Rome pour rétablir le pape dans ses états, d'où une révolution l'avait chassé. Jusqu'à la fin, Napoléon III sera conservateur à l'extérieur et libéral à l'intérieur, ou inversement, pour contenter toujours les deux tendances des Français. Cependant, sa position était fragile. Elle le fut encore plus après les élections du 13 mai 1849, qui montrèrent que le président était isolé. Un Bonaparte était au fait de l'État, et il n'y avait en France que bien peu de véritables bonapartistes. D'ailleurs, le président n'eut pu avoir de programme et de candidat à lui sans violer la Constitution et sans se découvrir. La nouvelle Assemblée, élue comme il l'avait été lui-même, sous l'impression des journées de juin, était conservatrice. Elle n'était même plus républicaine. La peur du désordre et de l'anarchie, le mécontentement des campagnes contre l'impôt resté fameux des 45 centimes additionnels aux contributions directes, tout avait détourné la France des républicains. Le parti de l'ordre était vainqueur, et il était représenté par les légitimistes et les orléanistes, dont les deux groupes formaient la majorité. Du jour au lendemain, cette majorité pouvait rétablir la monarchie, si les deux groupes monarchistes se réconciliaient comme la famille royale elle-même, divisée depuis 1830. Si la fusion échouait, le prince président n'aurait qu'à confisquer le courant qui éloignait la France de la République, et, au lieu de la royauté, on aurait l'Empire. C'est ainsi que les choses se passèrent. Louis-Napoléon n'eut qu'à profiter des fautes d'une assemblée royaliste qui ne sut pas accomplir une restauration. Ces fautes furent nombreuses et graves. Non seulement les partisans du comte de Chambord et ceux du comte de Paris ne réussirent pas à s'entendre, ce qui eût été facile, puisque le représentant de la branche aînée des Bourbons n'avait pas de fils et ne devait pas en avoir, mais encore, ils fournirent des armes au prince président. Ce qui préoccupait surtout ces conservateurs, c'était la crainte des révolutionnaires. Ils avaient beau former une majorité considérable, ils étaient obsédés par la peur des Rouges. Une élection partielle, qui ramena quelques députés au parti qui s'appelait, par une évocation de 1793, le parti de la Montagne, député élu à Paris surtout, épouvanta l'Assemblée. Elle s'en prit au suffrage universel. Thiers, devenu réactionnaire, au milieu de ses nombreux avatars, parla de la vile multitude. Après la loi du 31 mai 1850, qui excluait 3 millions d'électeurs, la politique du prince-président fut toute tracée. Élu du plébiscite, il se présentera comme le défenseur et le restaurateur du suffrage universel. C'est lui désormais qui traitera comme une quantité négligeable une assemblée inerte, flottant entre la monarchie et la République, tandis qu'il préparait l'Empire. Déjà, il avait pris ses ministres en dehors d'elle. Il se constituait un parti, se montrait en France, flattait et se conciliait l'armée, qui avait voté moins pour lui que pour le général Cavaignac. Déjà, avec Persigny et Morny, il méditait un coup d'État. Il s'y décida quand l'Assemblée eut refusé de réviser la Constitution, dont un article interdisait que le président fût réélu. Le coup d'État du 2 décembre 1851 fut une opération réactionnaire, mais dirigée contre une assemblée monarchiste pour lui enlever le bénéfice de la réaction, exécutée avec l'aide de l'armée et précédée d'avance aux démocrates à qui le prince-président promit une amnistie et le rétablissement du suffrage universel. Les invectives dont les républicains ont souffert le 2 décembre font oublier que l'Assemblée, qui fut chassée par la force et dont les membres furent arrêtés pour la plupart, était une assemblée monarchiste. S'il n'y avait eu que le règne de Napoléon III, il aurait dû y avoir celui d'Henri V ou de Louis-Philippe II. À lire les châtiments de Victor Hugo et l'histoire d'un crime, on croirait que le prince président a étranglé la République. À la vérité, il étouffait une monarchie au berceau. Seulement, cette monarchie eût été représentative, tandis que le coup d'État établissait la dictature et supprimait le régime parlementaire. Dans des conditions, au fond, assez peu différentes de celles du 18 Brumaire, le neveu du premier consul se substituait à la royauté, dont le retour était seulement un peu plus probable en 1851 qu'en 1799. Mais que désirait la France? Ce que l'Assemblée avait été incapable d'établir sur des bases solides, l'autorité et la force. L'autorité et l'ordre. Le peuple français les reçut de Louis-Napoléon Bonaparte, qui les lui apportait. Le coup d'État du 2 décembre, organisé de l'intérieur, exécuté dans les circonstances les plus favorables, ne rencontra donc qu'une faible résistance, celle de la minorité républicaine du pays. Encore, cette minorité était-elle affaiblie par la rancune des ouvriers qui, se souvenant des journées de juin, ne mirent qu'une médiocre ardeur à défendre une république qui ne subsistait plus que de nom. Le député Baudouin se fit vainement tuer sur une barricade du faubourg Saint-Antoine. La tentative d'insurrection, qui eut lieu à Paris, fut arrêtée en 3 jours. Plus on allait, et plus les mesures contre la guerre des rues étaient sévères et méthodiques. Le pouvoir n'avait plus, comme en 1789 ou en 1848, de mansuétude, ni d'hésitation. Aux journées de juin, le général Cavaignac avait déjà perfectionné ce qu'on pourrait appeler la technique de la répression. Cette fois, on fusilla tout individu pris les armes à la main. Le 5 décembre, Paris était redevenu calme. En province, il n'y eut que des soulèvements locaux, dont la troupe vint à bout sans difficulté. L'ensemble de la France avait accepté le coup d'État. Le 21 décembre, le suffrage universel, rétabli, comme l'avait promis le prince-président, fut appelé à se prononcer. Par 7 millions de oui contre 600 000 non, il approuva Louis-Napoléon Bonaparte d'avoir violé et aboli la Constitution, et lui conféra le pouvoir pour 6 ans. En réalité, l'Empire était fait. Voilà un demi-siècle que la France a les institutions administratives de l'an 8, disait une proclamation du prince. Pourquoi n'en aurait-elle pas aussi pour les institutions politiques? En effet, il n'avait presque rien à changer pour revenir à la dictature consulaire. Il suffit de limiter les pouvoirs de la Chambre, nommer de nouveaux corps législatifs et priver de tout droit d'initiative. Le perfectionnement, c'était l'élection des députés au suffrage universel et direct, mais avec la candidature officielle qui désignait les candidats agréables au gouvernement et leur assurait la quasi-totalité des sièges. Si, aux institutions de l'an 8, le régime parlementaire se superposait aussi bien que la dictature, c'était à la dictature qu'on était retourné. Un an plus tard, après une rapide préparation et un voyage à travers la France où il avait été reçu comme un souverain, Louis-Napoléon annonçait son intention de rétablir l'Empire héréditaire et de prendre le nom de Napoléon III. Le 21 novembre 1852, un nouveau plébiscite l'approuvait à une majorité encore plus écrasante que l'année précédente. Le peuple français avait adopté l'Empire autoritaire par 7 880 000 oui contre 250 000 non. L'opposition ne comptait plus. Les républicains avancés étaient en exil. Ceux qui restaient, effrayés par les mesures de rigueur et les déportations qui avaient suivi le 2 décembre, étaient réduits au silence. Victor Hugo, réfugié à Guernesey, écrivait les châtiments, mais se voyait bientôt seul à braver Sylla. Aux élections de 1857, il n'entrera encore qu'une poignée d'opposants au corps législatif, les 5. La pression administrative, l'action des préfets, l'intimidation contribuaient pour une part à cette docilité du corps électoral. Pourtant, l'acquiescement des masses rurales et de la bourgeoisie à ce régime dictatorial était spontané. Napoléon III avait donc eu raison de se fier au suffrage universel. Il restait seulement à donner au pays des satisfactions matérielles et morales. Il restait à gouverner. Depuis son élection à la présidence de la République jusqu'au rétablissement de l'Empire, ce qui avait le mieux servi Napoléon III, c'était, avec l'éclat de son nom, l'idée de l'autorité et de l'ordre. Ce qui aurait dû lui nuire, c'était l'idée de la guerre, attachée au nom napoléonien. Mais, pendant la Deuxième République, les assemblées, modérées ou conservatrices, avaient suivi en Europe une politique fort peu différente de celle de Louis-Philippe. Le programme commun des libéraux et des bonapartistes de la Restauration, celui des insurgés de 1830 et de 1848, abolition des traités de 1815, frontières naturelles, délivrance des nationalités opprimées, Lamartine et ses successeurs l'avaient laissé en sommeil. Sous la présidence de Louis-Napoléon, il n'y avait eu d'autre expédition à l'extérieur que celle de Rome pour la protection du pape, ce qui avait contenté les catholiques sans nécessiter un effort militaire sérieux. Cependant, on pouvait craindre que, devenu empereur, le prince-président ne fit une politique belliqueuse. Aussi, rassura-t-il à la fois la France et l'Europe lorsque, dans son discours de Bordeaux, quelque temps avant la proclamation de l'Empire, il eut prononcé ces paroles fameuses, si souvent rappelées depuis. « L'Empire, c'est la paix. » Ce ne fut pas l'unique raison pour laquelle Napoléon III fut accepté par les 4 puissances qui, en 1814 et en 1815, avaient lancé contre les Bonaparte une exclusion éternelle. Les révolutions, qui avaient parcouru l'Europe en 1848 à la manière d'une épidémie, avaient violemment secoué les monarchies prussiennes et autrichiennes, qui n'étaient pas fâchées que l'ordre fût rétabli en France, même par un coup d'État napoléonien. En outre, la Prusse et l'Autriche sortaient à peine d'un conflit pour la prépondérance en Allemagne. Sans qu'il y eût de sang versé, la royauté prussienne avait été humiliée à Olmütz, et il en était resté entre les deux puissances germaniques une rivalité qui les empêchait de se concerter contre la France. Quant à l'Angleterre, Napoléon III savait que tout dépendait d'elle. Il s'était appliqué à rassurer le vieil ennemi de son oncle, et, pendant son règne, il s'efforcera toujours de maintenir l'entente cordiale. Restait le tsar, très hostile au rétablissement de l'Empire français. À lui seul, il ne pouvait rien. Mais la Russie, que les révolutions n'avaient pas touchée, qui avait même, pour le compte de l'Autriche, écrasé l'insurrection hongroise, exerçait en Europe une influence considérable. C'était la Russie qu'il fallait abaisser, si l'on voulait remanier à l'avantage de la France les traités de 1815, ce qui était l'arrière-pensée et l'une des raisons d'être du nouvel empereur. Héritier des traditions napoléoniennes, élu du plébiscite, Napoléon III savait fort bien qu'il devait contenter toutes les tendances du peuple français. L'Empire, c'était, comme disait Thiers, une monarchie à genoux devant la démocratie. Ce qui avait donné le pouvoir à Napoléon III, c'était l'aspiration à l'ordre et à l'autorité. Mais l'esprit républicain de 1848 renaîtrait. Le goût de la liberté reprendrait à mesure que s'éloignerait le souvenir du danger révolutionnaire. Comment l'Empire autoritaire pouvait-il apporter une satisfaction à l'idée républicaine? En lui accordant ce que la monarchie de Juillet et la République conservatrice lui avaient refusé par prudence. Le retour au programme de politique extérieure de la Révolution, frontières naturelles, délivrance des nationalités. Réaction au-dedans, libéralisme au-dehors. Cette politique réussira au Second Empire pendant une dizaine d'années, jusqu'au moment où les difficultés naîtront pour la France des changements qu'elle aura produits en Europe. Comme Napoléon Ier, Napoléon III donnait à son règne un caractère monarchique et démocratique, conservateur et libéral. N'ayant pas trouvé de princesse de sang royal, il épousa Eugénie de Montijo, en rappelant le souvenir de l'impératrice Joséphine. Le discours par lequel il annonça officiellement son mariage était aussi une sorte de manifeste. Il n'avait pas cherché à s'introduire à tout prix dans les familles des rois. Mais il saurait s'imposer à la vieille Europe, en prenant franchement la position de parvenu, titre glorieux lorsqu'on parvient par le libre suffrage d'un grand peuple. La vieille Europe. Napoléon III a songé à la remanier, à en reviser la carte. Le retour au régime napoléonien n'aurait tout son sens, il n'aurait l'appui de l'opinion libérale, il n'échapperait aux reproches dont les Bourbons et Louis-Philippe ne s'étaient jamais délivrés, que si l'œuvre du Congrès de Vienne était abolie. D'autre part, l'expérience enseignait que si la France heurtait de front les alliés de 1814, elle s'exposait à les unir de nouveau contre elle. Il fallait donc, pour changer le cours des choses européennes, s'y prendre de manière à prévenir une coalition. Et comme la tête de la coalition eut encore été l'Angleterre, c'était avec l'Angleterre qu'il importait que le contact fût maintenu. La question d'Orient, toujours posée depuis un siècle, toujours propice aux diversions ou génératrice de complications, offrit à Napoléon III l'occasion dont il avait besoin. Charles X avait songé à effacer les conséquences de Waterloo par une alliance avec le tsar en lui laissant les mains libres en Turquie. C'était une combinaison nouvelle de tilsits. Napoléon III la renversa. C'est avec l'Angleterre, pour défendre l'intégrité de l'Empire ottoman, qu'il s'allia en 1854 contre la Russie. Guerre habilement choisie à tous les points de vue. Elle assurait à Napoléon III l'alliance anglaise. Elle était agréable en France aux catholiques, parce qu'elle avait pour prétexte le conflit des lieux saints revendiqué par les Russes schismatiques et aux républicains qui haïssaient le tsar autocrate, le tyran du Nord, persécuteur de la Pologne. Enfin, quand la puissance russe serait ébranlée, le champ deviendrait libre pour une intervention de la France en faveur des nationalités. La guerre de Crimée ne devait pas nous rapporter autre chose. Après un siège d'un an, auquel l'armée française avait pris la plus grande part, Sébastopol tomba. La Russie s'avoua vaincue. Au congrès qui se tint à Paris en 1856, la France apparut comme la première puissance du continent. Napoléon III semblait avoir effacé et les revers de Napoléon Ier et le recul de la France dans ce même Orient en 1840. La Russie était refoulée loin de Constantinople. Elle était humiliée, affaiblie. De cette humiliation, il lui resterait une rancune contre nous. Seulement, l'Angleterre n'avait pas permis que les questions auxquelles Napoléon III tenait le plus, celles de Pologne, celles d'Italie, fussent même effleurées. Satisfaite de l'affaiblissement de la Russie, l'Angleterre se détachait déjà de nous. Ainsi, derrière des apparences de gloire et de grandeur, d'amères réalités se cachaient. En Prusse, un homme redoutable commençait sa carrière, et il avait vu tout de suite le parti que son pays pouvait tirer de cette nouvelle situation. C'était Bismarck. La Prusse était la puissance la plus intéressée à un remaniement de l'Europe, parce que, sans la suppression de l'ordre des choses, créée en 1815, elle ne pouvait pas expulser l'Autriche de la Confédération pour fonder à son profit l'unité allemande. La Russie venait d'être humiliée à Sébastopol, comme la Prusse l'avait été à Olmutz. L'Autriche, étonnant le monde par son ingratitude, avait abandonné le tsar, qu'il avait sauvé de la révolution hongroise. La Prusse, en se rapprochant de sa Russie ulcérée, préparait le moyen de dominer librement l'Allemagne. Pour réussir, le plan de Bismarck, qui était à longue échéance, supposait que Napoléon III repousserait l'alliance que l'Autriche lui proposait au Congrès de Paris. Cette alliance, que Louis-Philippe et Guizot avaient pratiquée pour éviter les bouleversements dangereux, Napoléon III n'en voulut pas. Il ne pouvait pas en vouloir, parce qu'elle lui eût interdit d'affranchir la nationalité italienne. Dès 1855, en se séparant de son ministre des Affaires étrangères, Drouin de Luce, partisan de l'accord avec l'Autriche, Napoléon III avait choisi. Lorsque 3 ans plus tard, Orsini eut jeté sa bombe, cet attentat ne détermina pas l'empereur, comme on l'a cru, à intervenir en faveur de l'unité italienne. Il lui servit seulement à convaincre ceux qui, dans son entourage, s'opposaient à la guerre contre l'Autriche, qu'il était imprudent de résister aux sommations des patriotes italiens. Bientôt, à l'entrevue de Plombières, l'appui de la France était promis au Piémont pour affranchir de l'Autriche les provinces italiennes. Et l'an d'après, en 1859, les hostilités commençaient. Après avoir combattu le tsar autocrate, l'empereur des Français se tournait contre les Habsbourg. Par là, il remplissait une autre partie du programme libéral et républicain. Il désarmait une opposition. À son départ pour l'armée d'Italie, il fut acclamé dans le faubourg même où s'étaient dressées les barricades du 2 décembre. Il allait pourtant au-devant des difficultés qu'il ne soupçonnait pas. Si l'armée autrichienne fut vaincue, non sans peine, à Magenta et à Solferino, Napoléon III eut la surprise de voir toute l'Allemagne, insidieusement excitée par la Prusse, prendre fait et cause pour l'Autriche, puissance germanique. Menacée d'une guerre sur le Rhin, tandis que les Autrichiens, chassés seulement de Lombardie, résistaient encore et que la Russie et l'Angleterre se tenaient à l'écart, se réjouissant de son embarras, Napoléon III eut hâte de signer l'armistice de Villafranca. Il abandonnait ainsi Victor Emmanuel, les Piémontais, les patriotes italiens, qui, au même moment, espéraient la délivrance totale et l'unité de l'Italie morcelée. Des révolutions nationales éclataient dans les principautés, menaçant Rome et le Saint-Siège. Ainsi, la guerre contre l'Autriche, pour affranchir la nationalité italienne, tournait court et tournait mal. Elle avait exposé la France à un conflit européen. Elle avait déçu l'Italie elle-même, qui nous en a voulu de l'avoir laissée incomplète et qui estima d'ailleurs que nous étions payés du service rendu par la cession de Nice et de la Savoie. Enfin, l'unité italienne posait la question romaine, et par la question romaine, la politique intérieure et la politique extérieure de Napoléon III entraient en contradiction. S'il refusait Rome à la nouvelle Italie, il violait le principe des nationalités, il s'aliénait les libéraux français. S'il abandonnait Rome, il soulevait une autre opposition, celle des catholiques français, qui, depuis le coup d'État, lui avaient toujours prêté leur appui. Ce n'étaient même pas les seules conséquences que la politique des nationalités devait produire après un succès éphémère. L'écueil italien, que lui avait prédit Metternich, obligea d'abord Napoléon III à transformer son système de gouvernement. C'est à l'intérieur qu'il voulut apaiser les libéraux, en inaugurant l'Empire libéral par la réforme de 1860, qui accroissait les pouvoirs du corps législatif, lui rendait la parole et acheminait au régime parlementaire. Aux conservateurs, il promettait cette fois la paix, la fin des interventions de principes en Europe, le maintien de la souveraineté du pape. Mais il n'avait pas réussi à unir les partis sous un manteau de gloire. Il n'avait pu satisfaire à la fois les réactionnaires et les révolutionnaires. Il avait mécontenté les deux camps en se flattant de résoudre les difficultés auxquelles avaient succombé les régimes précédents. Et il avait préparé à l'extérieur, en reprenant la politique de la Révolution, les périls dont la France allait être assaillie. Les 10 dernières années du Second Empire se consumèrent en vains efforts pour rétablir une situation compromise. Depuis le Congrès de Paris, Napoléon III voyait s'envoler l'espoir de reviser les traités de 1815. Il déclarait bien que ces traités avaient cessé d'exister, mais c'était vrai surtout en ce sens que la Prusse se disposait à en supprimer les parties qui la gênaient, qui la liaient, qui l'empêchaient d'unifier l'Allemagne. L'Angleterre, alarmée par la réunion de la Savoie et de Nice, soupçonnait la France napoléonienne de préparer d'autres conquêtes. D'autre part, le principe des nationalités, auquel l'empereur restait fidèle et qu'il n'aurait pu abandonner sans soulever contre lui l'opinion libérale, l'introduisait dans de nouveaux embarras, ajoutés à ceux qu'il rencontrait déjà en Italie. En 1863, la Pologne s'était insurgée contre la domination russe et Napoléon III essaya d'intervenir. Il n'y gagna que le ressentiment d'Alexandre II, auquel Bismarck s'empressa de se joindre pour conserver les provinces polonaises de la Prusse et, en même temps, pour gagner le tsar à ses desseins sur l'Allemagne. Brusquement, l'année suivante, la question allemande fut posée par l'affaire du Schleswig-Holstein. Cette fois, Napoléon III refusa la proposition anglaise, qui était d'intervenir en faveur du Danemark, attaqué par la Prusse et l'Autriche. l'empereur, objecta que, défenseur des nationalités en Italie, il ne pouvait pas prendre parti pour une autre attitude en Allemagne, les duchés étant revendiqués par la Confédération germanique. Le résultat ne fut pas seulement de livrer à l'Allemagne les Danois du Schleswig. Cette conquête fut pour Bismarck le point de départ de l'unité allemande, le prétexte du conflit qu'il lui fallait pour expulser l'Autriche de la Confédération. Ce plan était visible, il ne pouvait échapper à ceux qui suivaient le cours des événements. Napoléon le favorisa. Toujours à la recherche d'un succès qui consoliderait son trône, il revint au système de l'époque révolutionnaire, celui des compensations. Il laissait le libre champ à la Prusse en Allemagne, et en échange, la France recevrait un agrandissement. À l'entrevue de Biarritz avec l'envoyé du roi Guillaume, en 1865, l'accord se fit sur cette base, mais sans engagement formel de la part des Prussiens. En même temps, pour compléter la chaîne, Bismarck s'alliait à Victor Emmanuel et lui promettait la Vénétie, au cas d'une guerre commune contre l'Autriche. Cette combinaison, dangereuse pour la France, puisqu'elle associa l'unité italienne à l'unité allemande, Napoléon III l'approuvait, parce qu'il espérait que Venise ferait oublier Rome aux Italiens. Quand il s'aperçut du danger, il était trop tard. Parce qu'il ne pouvait plus s'opposer à l'expansion de la Prusse et soutenir l'Autriche qu'en reniant et en détruisant son œuvre d'Italie. Ce n'était même pas tout. Lorsque la guerre éclata, en 1866, entre la Prusse et l'Autriche, soutenue par les États de l'Allemagne du Sud, Napoléon III était empêtré dans une aventure d'Amérique. En 1864, ayant envoyé de concert avec l'Angleterre et l'Espagne quelques navires et quelques troupes au Mexique pour appuyer la réclamation des créanciers de ce pays dévasté par une révolution, l'empereur avait été séduit par l'idée d'y fonder une monarchie dont le souverain serait un Habsbourg, l'archiduc Maximilien, frère de François-Joseph. La plus dangereuse des conceptions napoléoniennes se rattachait à cette idée centrale. Il s'agissait toujours d'obtenir à l'extérieur un succès capable de plaire à l'imagination des Français. Il s'agissait toujours de satisfaire une fraction de l'opinion publique. Après l'expédition de Syrie, pour y protéger les chrétiens, l'expédition du Mexique détournerait peut-être les catholiques français de penser à Rome. L'empereur d'Autriche, dont le frère recevait une couronne des mains de la France, serait peut-être disposé à céder la Vénétie sans combat. Mais le Mexique dévora des hommes et de l'argent. En 1866, nous y avions, sans résultat, affaibli notre armée, et bientôt, Maximilien, abandonné par la France, était fusillé par les Mexicains, qui ne l'avaient jamais reconnu. Ce n'est pourtant pas la raison qui empêcha Napoléon III d'intervenir en Allemagne, lorsque, comme un coup de foudre, éclata la nouvelle que l'armée autrichienne avait été battue par la Prusse à Sadova. Mais il était lié, de toutes parts, lié avec la Prusse depuis l'entrevue de Biarritz, et, par tout son système, lié avec l'Italie, qui était battue à ce moment même par les Autrichiens, en essayant de libérer Venise. Si la France arrêtait les succès de l'armée prussienne, elle prenait parti pour l'Autriche contre l'Italie et pour l'état de choses créé en Allemagne par les traités de 1815. L'empereur se fut donc interdit les compensations qu'il espérait. De plus, le public, qui avait applaudi la guerre de Crimée contre le Tsar et la guerre d'Italie contre les Habsbourg, se réjouissait de la victoire prussienne de Sadova, comme d'une victoire du libéralisme, et n'eut pas compris la volte-face du gouvernement impérial. Pourtant, c'est dans l'opinion que le retournement fut le plus rapide. Quand on s'aperçut que la Prusse s'agrandissait en Allemagne, annexait le Hanovre, préparait des conventions militaires avec les États allemands du Sud, que nous n'avions pas secouru et qui se livraient maintenant à leur vainqueur, quand on vit que Bismarck, au traité de Prague, ménageait l'Autriche pour ne pas la rendre irréconciliable, on comprit enfin où il voulait en venir. Trop tard est le grand mot, un mot terrible dans l'histoire. Lorsque Thiers, oubliant que pour combattre Louis-Philippe et Guizot, il avait recommandé la politique que Napoléon avait suivie, montrait le danger d'une grande Allemagne unie par la Prusse, lorsqu'il lançait son mot si souvent répété « Vous n'avez plus une faute à commettre ». L'avertissement venait trop tard. La presse, l'opinion publique, s'irritait maintenant contre les vainqueurs de Sadova, oubliant la faveur obstinée dont les Hohenzollern, depuis Frédéric II, avaient joui chez nous. Et cette tardive révélation de la réalité se traduisait par un énervement qui allait hâter le conflit préparé par Bismarck. C'était pour lui seul que depuis 10 ans, les choses avaient bien tourné, parce que, sur chacun des actes de la France en Europe, il avait modelé sa politique et profité sur le champ de toutes les fautes commises. On pouvait comparer Napoléon III à un homme qui marchait avec un bandeau sur les yeux, tandis que son ennemi voyait clair. De 1866 et de la bataille de Sadova datent le déclin de l'Empire et une nouvelle situation en Europe. en travaillant à la revanche de Waterloo par la destruction des traités de 1815 et par le principe des nationalités, la France, du congrès de Paris à Solferino, avait eu quelques années d'illusion. En fin de compte, elle avait compromis sa sécurité et provoqué le péril. C'était un changement considérable que l'apparition d'une Prusse agrandie, fortifiée, qui cessait d'avoir l'Autriche pour contrepoids et qui dominait désormais les pays germaniques. Toute la politique napoléonienne en fut désemparée. Lorsque l'empereur rappela les promesses de Biarritz, réclama pour la France une compensation aux conquêtes de la Prusse, Bismarck se moqua de cette note d'aubergiste. Napoléon III avait demandé Mayence. Non seulement Bismarck refusa, mais il mit les princes allemands en garde contre les ambitions de la France. Repoussé sur la rive gauche du Rhin, Napoléon III songea à une annexion de la Belgique, tombant dans l'erreur que Louis-Philippe s'était gardé de commettre. Plus tard, Bismarck révéla tout aux Belges et aux Anglais, entourant la France d'une atmosphère de soupçons, afin qu'elle fût seule le jour où il l'attaquerait. Lorsqu'enfin Napoléon se montra disposé à se contenter du Luxembourg, ce fut dans le Parlement de l'Allemagne du Nord une furieuse protestation contre la France, une manifestation de haine nationale. Bismarck répondit que la volonté populaire lui interdisait de céder une terre germanique. Trompé, humilié, Napoléon III portait à l'intérieur le poids de ses échecs. Le temps n'était plus où il n'y avait au corps législatif que 5 opposants irréductibles. Aux élections de 1863, ils étaient passés à 15. Paris et les grandes villes votaient pour les candidats de l'opposition. Aux élections de 1867, ce fut encore pire. Les candidats du gouvernement n'obtinrent dans toute la France qu'un million de voix de plus que les autres. Le jeu de mots d'Henri Rochefort, dans le premier numéro de son pamphlet La Lanterne, n'était pas sans justesse. La France contient 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. On était mécontent du Mexique, de sa Dova. L'Empire, après avoir promis qu'il serait la paix, avait fait la guerre, et la guerre avait déçu les libéraux qu'il avait désirés, puisque la Pologne n'était pas délivrée et que l'Italie, bien qu'elle eût enfin reçu la Vénitie en 1866, n'avait pas Rome. La grande masse des électeurs qui tenaient à la paix était inquiète, parce que l'on commençait à parler d'accroître nos forces militaires pour tenir tête à la Prusse. Le principe des nationalités, qui n'avait donné que des déboires, n'exerçait plus la même séduction qu'autrefois. Une nouvelle école de républicains et de socialistes était venue, et celle-là, au lieu d'être belliqueuse, demandait l'abolition des armées permanentes. La réforme militaire du maréchal Niel, mollement soutenue par le gouvernement, qui redoutait l'opinion publique, fut combattue par la gauche et n'aboutit pas. Enfin, le mauvais souvenir de 1848 et des journées de juin s'était éloigné. On ne savait plus gré à Napoléon III d'avoir rétabli l'autorité et l'ordre. Les dernières années de l'Empire s'écoulèrent ainsi dans le malaise et le trouble. Pour le renverser, il fallut pourtant une catastrophe. Il y avait bien des révolutionnaires, mais personne ne pensait à une révolution. À mesure que l'Empire s'affaiblissait, il devenait plus libéral, et l'ancienne opposition se rapprochait du pouvoir. Seuls les jeunes, comme Gambetta, restaient encore irréductibles. Émile Ollivier, qui avait été un des 5, était déjà réconcilié avec Napoléon III. Le 2 janvier 1870, il fut chargé du ministère où entrèrent 8 députés. Le régime parlementaire, aboli en 1852, avait été reconstitué pièce à pièce. Et de nouveau, l'empereur fit consacrer par un plébiscite ses réformes et son pouvoir. On vit alors, 4 mois avant la chute, combien l'ensemble de la nation française était conservateur, respectueux de l'ordre de choses établies, peu désireux d'un changement. Le 8 mai 1870, il y eut encore plus de 7 millions de oui contre 1,5 million de non. On crut, Gambetta croyait lui-même, l'Empire plus fort que jamais. L'enterrement de Victor Noir, tué au cours d'une altercation par le prince Pierre Bonaparte, avait donné lieu à des manifestations qui parurent redoutables, mais qui restèrent sans suite. Quelques mouvements insurrectionnels, à peine ébauchés, servirent le gouvernement au point qu'on l'accusa de les avoir provoqués. Mieux encore, le ministère Ollivier poursuivit des républicains pour complot contre la sûreté de l'État, emprisonna Rochefort, fit condamner l'Association internationale des travailleurs. On était au mois de juin. Sans le désastre qui approchait, nul ne sait combien de temps l'Empire aurait encore duré. Une grave difficulté extérieure était déjà née, et elle nous ramenait à une situation qui n'était pas nouvelle dans notre histoire. On ne s'étonne pas que nous soyons entrés en conflit avec la Prusse par le détour de l'Espagne quand on se rappelle la place que les affaires espagnoles avaient tenue au siècle passé dans la politique française. En 1868, une révolution avait renversé la reine Isabelle, et pour la remplacer, le maréchal Prim, de concert avec Bismarck, avait offert le trône à un Hohenzollern catholique, le prince Léopold. La France ne pouvait pas plus admettre qu'un parent du roi de Prusse régnait en Espagne, qu'elle n'avait admis un Habsbourg sous Louis XIV. On redit alors ce qu'on avait dit en 1700. L'Empire, de Charles Quint, ne doit pas se reconstituer. L'opinion, déjà montée contre la Prusse, vit dans la candidature Hohenzollern une provocation de Bismarck. Prévost Paradol avait écrit que la France et la Prusse marchaient l'une contre l'autre comme deux locomotives lancées sur le même rail. Un jour ou l'autre, la rencontre devait se produire. Il fallait seulement que Bismarck, pour être sûr d'avoir toute l'Allemagne avec lui, se fit déclarer la guerre qu'il désirait, qui lui était nécessaire pour fonder l'unité allemande. Il se tenait prêt à saisir l'occasion et l'affaire d'Espagne la lui fournit. Le gouvernement prussien avait affecté d'ignorer l'offre de la couronne d'Espagne à un Hohenzollern. Devant les protestations de la France, ce fut le père du prince Léopold qui déclina la candidature pour lui. À Paris, cette renonciation, à laquelle Bismarck et Guillaume refusaient de se mêler, parut insuffisante et louche. 4 ans plus tôt, le propre frère de Léopold, le prince Charles, choisi comme souverain par la Roumanie, avait passé outre à l'interdiction d'une conférence européenne, s'était rendu sous un déguisement à Bucarest, et là, s'était prévalu du fait accompli. Le roi de Prusse avait affirmé que son parent avait agi à son insu, alors que Bismarck avait tout approuvé. Le gouvernement français connaissait d'autant mieux cette histoire qu'il avait été favorable au prince Charles. C'est pourquoi, en juillet 1870, le ministre des Affaires étrangères, Gramont, jugea indispensable de s'assurer que la France ne serait pas jouée en Espagne comme l'Europe l'avait été en Roumanie. Il chargea notre ambassadeur, Benedetti, d'obtenir des garanties du roi Guillaume, qui était alors aux eaux d'Aisne. Guillaume Ier était aussi prudent et même timoré que son ministre était audacieux. Il se contenta de faire répondre à Benedetti qu'il considérait la question comme close et qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à l'ambassadeur de France l'audience demandée. Le récit de ce refus, arrangé par Bismarck de manière à devenir offensant pour la France, donna à Paris l'impression que la Prusse nous provoquait. La Chambre, l'opinion publique, était déjà irritée. La dépêche d'Aisne produisit l'effet qu'avait calculé Bismarck. À Paris, la foule réclamait la guerre. On criait « À Berlin !» Émile Ollivier prononça le mot qui pèse encore sur sa mémoire. Cette responsabilité, nous l'acceptons d'un cœur léger. Bismarck l'acceptait aussi. C'était lui qui avait sa guerre. Elle lui fut déclarée, comme il le souhaitait, le 19 juillet 1870. Cette guerre, bien peu de Français avaient compris ce qu'elle signifiait, deviné ce qu'elle allait être. On pensait n'avoir à combattre que la Prusse, puissance malgré tout de second ordre, à qui on en voulait encore plus de son ingratitude que de son ambition, et de petits États germaniques, ses alliés, qu'on ne prenait pas au sérieux. La France entrait en conflit avec le peuple allemand tout entier quand elle croyait n'avoir affaire qu'aux Prussiens. On n'imaginait même pas ce qui allait fondre sur nous. La défaite, l'invasion, n'était entrevue par personne. Si la France avait été envahie 2 fois, en 1814 et en 1815, c'était par une coalition écrasante et après de longues années de victoire. Toutes les campagnes du Second Empire avaient encore eu lieu au loin. Une victoire de la Prusse paraissait invraisemblable. On comprend le choc terrible que la France reçut d'événements auxquels rien n'avait préparé, ni ceux qui n'avaient pas observé les progrès de l'unité allemande, sous l'influence et la direction de l'État prussien, ni ceux qui regardaient le mouvement des nationalités comme légitime et pacifique, ni ceux qui annonçaient qu'il n'y aurait plus de guerre ou que, s'il y en avait, entre les monarchies, il ne pouvait y en avoir de peuple à peuple. La première déception vint de notre solitude. Nous n'avions pas une alliance. La Russie, par rancune, laissait faire la Prusse. L'Angleterre craignait qu'après une victoire, la France n'annexât la rive gauche du Rhin et peut-être la Belgique. L'Italie n'attendait que notre défaite pour achever son unité et entrer à Rome. L'Autriche était intéressée à prendre sa revanche de Sadova. Mais elle n'avait pas confiance en nous et elle connaissait la force de la Prusse. Toutes les fautes de la politique des nationalités se payèrent alors. Cette politique, Napoléon III avait cru habile de l'exécuter par étapes. S'il avait évité la coalition que Louis-Philippe redoutait, il n'avait réussi à la fin qu'à nous laisser seuls et affaiblis en face de l'Allemagne organisée et commandée par la monarchie prussienne. La défaite fut d'une soudaineté effroyable. L'ennemi, prêt avant nous, était entré en Lorraine et en Alsace. Le 3 août, nous avions perdu les batailles de Fröschwiller et de Forbach. 2 jours plus tard, l'armée du Rhin était bloquée dans Metz. Une autre armée, formée à Châlons, s'étant mise en marche pour la délivrer, fut prévenue et arrêtée par les Allemands. Elle ne tarda pas à être enfermée dans la petite place de Sedan, avec l'empereur lui-même qui l'accompagnait. Il ne lui resta plus qu'à se rendre. Le 2 septembre, Napoléon III et 100 000 hommes étaient prisonniers. Le dimanche 4 septembre, la nouvelle du désastre était connue à Paris. D'un seul coup, l'Empire s'effondra. À la Chambre, les Républicains, Jules Favre, Gambetta, hésitaient encore, craignant les révolutionnaires. Ils essayaient de donner à la déchéance une forme régulière et légale lorsque, comme en 1848, la foule envahit le palais Bourbon et réclama impérieusement la République. Les chefs de la gauche la suivirent alors à l'hôtel de ville où fut proclamé un gouvernement de la défense nationale, tandis que l'impératrice régente quittait les Tuileries dans un fiacre. Personne ne songea seulement à défendre le régime napoléonien que le peuple souverain, 4 mois plus tôt, avait encore approuvé par 7 358 000 voix. Fin du chapitre 20.